Cet épisode est réalisé en collaboration avec Kiwi, l'application mobile destinée aux ostéopathes pour animaux. Disponible sur l'App Store et le Google Play Store, Kiwi a été imaginée par des ostéopathes en activité pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs. Une application intuitive avec un joli design qui prend en main l'agenda, l'édition des comptes rendus et la facturation. Kiwi envoie également des mails de rappel de rendez-vous à vos clients pour éviter les lapins, et est disponible hors connexion si jamais vous êtes au milieu de la pampa. Profitez d'un mois d'essai gratuit en vous inscrivant sur le site internet. Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalut-Natal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute! Aujourd'hui, Dans Mordant franchit les frontières et on fait un saut en Afrique du Sud avec Claire de Beauve qui nous parle de son quotidien de ranger. Amoureuse de la nature depuis toujours, c'est après une mission d'éco-volontariat qu'elle décide de faire de son rêve une réalité. Elle part en Afrique du Sud et passe les certifications pour devenir ranger et ainsi protéger et conserver la faune sauvage. À travers le récit de son quotidien, Claire nous parle de ses différentes missions du ranger. On en apprend plus sur les enjeux de protection des espèces en danger, lions, éléphants, girafes, zèbres, buffles et j'en passe. On apprend les différences entre les rhinos blancs et les rhinos noirs. On comprend mieux les problématiques de la conservation en espace clos, notamment avec les migrations, la génétique, les ratios proies-prédateurs. Claire nous parle de la nature avec une grande passion et un profond respect. Claire se trouvant au beau milieu de la brousse lors de l'enregistrement du podcast, le son est un peu moins bon que d'habitude, mais vous allez vite passer au-dessus tant ses paroles sont envoûtantes. Avec Claire, on a aussi parlé d'aiguiser ses sens, de langage corporel et de braconnage. Bonne écoute! Salut Claire!
Salut Mathilde!
Comment tu vas?
Ça va bien, j'attendais ton appel.
Ouais, ça fait un petit moment qu'on essaye de se retrouver toutes les deux, donc c'est pas facile. Et c'est la première fois que je fais ça, un podcast à distance. Et puis là, c'est à distance, bien à distance, puisque Claire, tu te trouves en Afrique du Sud actuellement. Donc, je suis trop contente de faire ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Claire Debeau, je suis française et j'ai 29 ans. Mais maintenant, je vis en Afrique du Sud depuis environ 3 ans. Et j'y travaille depuis à peu près 2 ans et demi en tant que ranger / safari guide. Et donc, je vis et travaille dans une réserve en Afrique du Sud.
Incroyable. Quelle vie. Mmh. Et du coup, en fait, pour la petite histoire, on s'est rencontrés parce que j'ai fait une mission de 2 semaines dans la réserve dans laquelle Claire travaille. Et c'était marrant parce qu'elle vient de région parisienne aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça fou de trouver une ranger française, jeune, la même histoire que moi, enfin je veux dire la même ville de naissance pratiquement. Donc, quand remonte ton amour pour la nature ? Est-ce que tu t'en souviens ou c'est venu petit à petit avec des voyages ?
Je m'en souviens très bien parce que j'ai l'impression que ça a toujours été présent dans ma vie et dans ma tête. Et déjà enfant, j'ai été très orientée sur les animaux, la nature, l'aventure un petit peu aussi déjà en étant jeune. Donc ça a toujours été l'un de mes intérêts les plus forts. En fait, je parlais que de ça même, je pense. Et donc pendant longtemps, un de mes rêves d'enfant, ce qui est assez basique, c'était d'être vétérinaire. Et j'ai pas poursuivi cette direction parce qu'à l'école, j'étais pas très douée, pas très travailleuse à ce moment-là. Et en fait, j'ai suivi un plan B qui était le design, le graphisme à cette époque-là. Mais c'était pas une passion du tout. C'était plus vraiment comme un plan B. Et c'est seulement quelques années plus tard, en fait, où je finis mes études de design. je commence à travailler, mais je me rends très vite compte en quelques mois que c'est pas le type de vie que j'ai envie d'avoir et que je suis pas pleinement épanouie. Et le voyage me manque, le côté sauvage me manque. Donc en fait, c'est après un voyage en Afrique du Sud, en tant que volontaire, comme ce que tu as fait toi il y a quelques mois, que j'ai appris à propos de la formation qui est possible. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est possible. C'est pas juste un truc dont tu rêves. Et quand tu vis en région parisienne, c'est un peu... j'y pense, enfin en tout cas j'y pensais, mais j'en avais parlé, mais je pensais pas du tout que c'était faisable. Et c'est en venant ici que ça m'a un peu ouvert une porte et planté quelques graines dans la tête où ça a commencé à germer. Et je me suis dit, bah en fait c'est ça que je veux faire. J'ai toujours pensé à ça et toujours rêvé de ça. Et je me suis lancée.
Ouais, c'est fou. Et du coup, t'avais parlé aux rangers sur place quant à la formation, ce qui était possible de faire, parce que moi, je me suis même pas dit ça quand j'y étais, enfin, alors que toi, tu t'es vraiment vue y vivre, quoi, alors que c'est vraiment rudimentaire, hein, la vie dans la réserve, tu nous en parleras peut-être plus tard, mais c'est vraiment radical, la différence entre la vie région parisienne et la vie de ranger.
Ouais, c'est vraiment... c'est très différent, et je pense que vivre ici et de faire ce boulot, ça te ramène à l'essentiel, pas le minimum, parce que je ne vis pas avec le minimum, je vis très bien, mais je vis avec beaucoup moins que ce que j'avais en France, ça c'est sûr. Mais oui, je me suis complètement projetée. C'est complètement... c'est mon truc, quoi. C'est vraiment... si tu m'avais dit ça, je ne sais pas, il y a peut-être 5 ou 6 ans, que je vivrais ici et je serais ranger et je travaillerais pour la conservation, la protection des espèces sauvages en danger, etc. Je t'aurais regardé avec des yeux, j'aimerais bien, quoi, mais bon, je suis pas sûre que ce soit possible. Donc en fait, dès que j'ai découvert que c'était possible et que en fait, j'avais pas grand-chose à organiser pour le réaliser, j'ai direct sauté dedans, quoi. Ouais, j'ai pas hésité longtemps.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler du métier de rangers? Quelles étaient les formations que tu as dû faire? Quel était le côté pratico-pratique, quoi? Tu es à Paris, quand tu rentres, tu te dis que c'est possible, tu as envie d'y retourner. Comment ça s'est passé?
Alors, je suis rentrée en France après mon expérience de volontariat, où là, j'avais déjà eu des informations sur la formation, etc. Et je suis rentrée à cause du Covid. Donc 2020. Et la France, elle était déjà confinée depuis une ou deux semaines, je pense. Je suis rentrée fin mars. Et donc en fait, moi, le Covid, ça m'a plutôt bien servi avec du recul parce que j'ai eu le temps de réfléchir, de contacter des gens, de m'organiser, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis organisée pour changer de vie, en fait, assez radicalement. Et en fait, j'ai pu revenir en Afrique du Sud que un an après, une bonne année, genre un an,
ah oui,
quelques mois.
C'est... Ah oui, j'avais
ouais,
pas imaginé que c'était
avec,
si long. Ah bah oui,
avec
le Covid.
Les confinements en France et après, la France a été déconfinée, mais par contre, l'Afrique du Sud avait toujours ses frontières fermées. Donc, même si je pouvais voyager de France, je pouvais pas venir en Afrique du Sud. Pendant un an, j'ai travaillé dans des fermes. Et j'ai fait du woofing, parce que pour moi, c'est ce qui se rapprochait le plus de ce qui est de l'expérience de la vie extérieure, avec les bêtes, être indépendante dans la vie extérieure, quoi.
T'as fait ça en France, le woofing?
J'ai fait ça en France et en Irlande.
Ok.
Donc j'ai travaillé dans différentes fermes. J'ai fait des fermes de moutons, chèvres, dans les vignes, avec des lamas. Et avec des chevaux de course aussi, en Irlande. Donc, j'ai fait ça pendant... J'ai un peu voyagé entre différentes fermes pendant un an. Et dès que l'Afrique du Sud a ouvert ses frontières, je suis venue direct et j'ai commencé ma formation. Et c'est une formation qui est pour ranger et guide safari. Donc, ton premier niveau d'examen, ça regroupe les deux. T'as le même examen pour être guide ou ranger. La différence entre les deux, c'est que le guide safari, il va être beaucoup plus en contact avec une clientèle, avec des gens, des touristes, Alors que le ranger, il est plus orienté conservation et un peu le management de ce qui se passe au sein de la réserve, et il a moins de contact avec le touriste.
Ok. Et du coup, pendant ces formations, qu'est-ce que tu apprends? Quelles sont les matières pratiques et théoriques que tu dois réviser?
Alors, tu commences avec un examen qui est essentiel pour commencer à travailler dans cette industrie. Et après, c'est une carrière qui est un peu sans fin, dans le sens où tu peux tout le temps améliorer des niveaux, passer des nouveaux examens, te spécialiser sur différentes branches. Donc, il y a des gens, même après 20, 30 ans de carrière, ils continuent à passer des examens. Et donc, ce premier niveau, tu as une partie théorique où là, tu dois apprendre un maximum d'informations. Et si je me rappelle bien, je crois qu'il y a 17 ou 18 modules différents. Et chaque module, ça traite d'un sujet. Donc, ça va de la géologie, biologie, météorologie, éthologie. Après, tu as tout ce qui est mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens. Il y a de l'astronomie, il y a du management, il y a de l'histoire. Enfin, voilà, il y a une grande liste de chapitres, en quelque sorte. Après cet examen théorique, tu dois faire un examen pratique, où là, c'est vraiment, bon, c'est presque la même chose que la réalité, mais tu emmènes des clients avec toi dans une voiture safari pendant 3-4 heures. Et en gros, tu offres une expérience de safari où tu dois montrer. Donc, tu as un examinateur dans la voiture, donc tu dois montrer que tu connais, que tu as des connaissances dans chaque module que tu as appris avant. Et tu as aussi tout ce qui est sécurité, bon sens, divertir tes clients et être intéressant. Enfin, voilà, il y a plein de points sur lesquels tu es observé. Et après cette théorie et cette pratique, donc tu as ton premier niveau et voilà, tu peux travailler quelque part avec ça.
Et toi, tu l'as eu au bout de combien de temps? Comment ça se passe? T'arrives et t'es un peu en apprenti, du coup tu suis des rangers et des guides sur place et en attendant tu révises ou tu révises de ton côté et puis après tu...
Alors, il y a différentes solutions pour ça. Soit il y a des programmes tout organisés, c'est un peu comme des écoles pour rangers, où en général, il me semble que c'est 1 an, où pendant 1 an, ils te forment, tu as des leçons et tout ça, enfin, tu as des profs, et tu as aussi un stage qui est compris là-dedans. Donc, tu as différents programmes comme ça. Il y en a un qui s'appelle Bushwise, il y en a un autre qui s'appelle Eco Training. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est candidature spontanée. Donc, j'ai appris la théorie de mon côté avec les bouquins et avec ce que je voyais à l'extérieur dans la savane en prenant des notes, des photos, etc. J'ai passé l'examen théorique en candidature spontanée et après pour l'examen pratique. En fait, pendant cette période-là, j'étais dans une réserve avec une équipe de rangers et ils m'emmenaient sur le terrain très régulièrement. Et c'est aussi à ce moment-là où j'apprenais ma pratique, où j'avais des expériences et je m'améliorais là-dessus pour être prête pour l'examen pratique à la fin.
T'as été courageuse hein, de passer la théorie en candidat libre. C'est fou. En plus, fallait maîtriser l'anglais, puis t'es dans un nouveau pays, etc. Chapeau, félicitations. Et quelles sont les missions du
Merci.
Rangers? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'un Rangers en fait? On n'a pas vraiment un Ranger, pardon. On n'a pas vraiment défini.
Du coup, un ranger, ce que je disais très rapidement tout à l'heure, c'est qu'il va être plus du côté conservation et management plutôt que faire un guide, faire un safari avec des clients. Et donc, ce qu'on fait, nous, ici, c'est qu'on prend des datas tous les jours, matin et après-midi, et parfois la nuit aussi, de tous les animaux qu'on voit. Et prendre des datas, ça veut dire, par exemple, prendre note de la localisation, la position, quel est le comportement de l'animal à ce moment-là, quel animal c'est, parce qu'on a aussi des moyens de reconnaître tous les animaux, ou presque tous, dans notre réserve. Donc, on sait quel individu c'est et quels sont ses mouvements par rapport à la dernière fois qu'il a été vu. On prend plein, plein d'autres informations en note, comme le temps, la géographie, on prend un maximum d'informations sur ce qu'on voit en fait à ce moment, cet instant T. Et ces data, donc elles sont enregistrées à chaque fois qu'on en prend. Et on en prend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc ça, ça nous permet de faire des rapports à la fin d'un, à la fin du mois et à la fin de l'année. Ça nous permet de savoir la concentration des populations pour chaque espèce, leur évolution dans la réserve, leur mouvement. Et dans une réserve, le problème, entre guillemets, c'est que c'est un système fermé. Donc il y a des clôtures autour d'une réserve qui vont empêcher des comportements qui sont naturels à l'état sauvage. Donc les migrations, par exemple, c'est impossible dans une réserve parce que les clôtures vont enfermer ces animaux dans un espace clos. Même si c'est très, très grand, les animaux peuvent aller toujours plus loin que ça.
Ouais, et par exemple, la réserve...
Protéger, c'est ça qui a été mis en place.
Ouais, oui. Par exemple, ta réserve, elle fait combien de... La réserve dans laquelle tu travailles fait combien de kilomètres carrés ? Pour donner
elle
une ordre d'idée.
Elle fait 25 000 hectares.
Voilà. Mais dans la vie, naturelle, sans clôture, en fait, un animal traverse les frontières, traverse plusieurs pays, en fait.
Ouais, c'est ça. Parce que ça va suivre la météo, ça va suivre des migrations de d'autres espèces qui se suivent les uns les autres. Ça va suivre là où il y a de la nourriture. Enfin, et même si les animaux dans la réserve, ils ont un espace suffisant pour vivre, c'est pas suffisant pour ne pas interagir du tout sur ce qui se passe dans la réserve. Parce que notre but, c'est évidemment avoir le moins d'impact possible sur ce qui se passe dans la réserve pour que ce soit le plus sauvage possible. Mais vu qu'il y a des clôtures, il n'y a pas de migration possible. Et donc, il faut avoir un œil sur la génétique parce qu'au bout d'un moment, la génétique, elle tourne en rond. Il faut avoir un œil sur le nombre, par exemple, de prédateurs comparé au nombre de proies parce qu'au bout d'un moment, pareil, ça peut se déséquilibrer. Et en fait, tout doit être parfaitement équilibré.
Et comment
pour
vous
que
faites,
ce soit sain.
Ouais. Et comment vous faites pour rééquilibrer, par exemple, et éviter l'inbreeding, une concentration trop importante de gènes, ou alors un gros pourcentage de proies par rapport aux prédateurs, ou inversement, plus de prédateurs par rapport aux proies. Comment vous faites?
Donc, ce qui se fait le plus, c'est qu'on va essayer d'échanger certains individus avec d'autres réserves. Donc, soit on fait des échanges, par exemple, on envoie un lion mâle dans une réserve et eux nous envoient un autre lion où la génétique est complètement différente. Et du coup, ça renouvelle la génétique de nos troupes de lions dans la réserve. Donc, ça, c'est une des choses qu'on fait le plus. Et sinon, dans un cas où, par exemple, il y a trop de prédateurs et donc le nombre de proies est en train de diminuer, soit cette fois, on donne des prédateurs à des réserves qui en ont besoin, parce que toutes les réserves ne sont pas forcément faites de tous les animaux. Il y a des réserves, par exemple, où il n'y a pas de lions. Et ces gens vont être à la recherche de lions pour justement trouver un équilibre qu'ils n'ont pas encore atteint dans leur réserve. Et nous, par exemple, ça peut être un avantage de donner des lions si on en a trop. Pour les proies aussi, ça peut être aussi un travail sur l'environnement. Si le nombre de proies diminue, c'est peut-être que l'environnement n'est pas idéal pour eux. Et ça, ça change pour chaque espèce, c'est différent. Donc ça peut être, par exemple, ouvrir beaucoup plus de terrain parce que, je ne sais pas, par exemple, les gnous ont besoin de grandes plaines ouvertes et de l'herbe partout. Donc s'ils sont sur un terrain où c'est l'inverse, c'est très buissonneux et il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, ils vont avoir du mal à se développer.
La réserve dans laquelle tu travailles, elle s'appelle Makalali, c'est ça?
Ouais,
Makalali
Nature Game Reserve.
Et à Makalali, quelles sont les problématiques du coup? On va parler de ta réserve pour que ce soit plus simple.
Les problématiques, c'est les exemples que j'ai utilisés juste avant. On a une concentration de prédateurs qui est trop élevée comparée au nombre de proies. Donc c'est un travail qui c'est sur le long terme parce que c'est long de trouver des réserves qui veulent accepter certains de nos prédateurs.
Quels sont les prédateurs ?
Il y a les lions, les léopards, les hyènes, principalement. Il y a
Ok.
d'autres petits prédateurs, mais ceux-là vont pas avoir un impact énorme sur les autres populations, comme le serval, le caracal, ou même les mangoustes. Tout ça, c'est carnivore, mais ça va pas avoir un gros impact sur les autres populations, et aussi parce on n'en a pas autant que les léopards, par exemple.
Et les lions et les léopards, ils prédatent quel style de proie?
Ils vont aller vers. Donc, ça dépend s'ils chassent tout seuls. Donc, par exemple, le léopard, il va plutôt chasser seul. Il va prendre des impalas, il peut prendre un kudu, un gnou. Alors qu'un lion qui chasse seul va prendre à peu près la même chose. C'est quand même plus costaud un lion comparé à un léopard. Donc, ça peut être des proies un peu plus grosses. Et s'ils chassent à plusieurs, ils peuvent carrément avoir une girafe ou un buffle.
Et du coup, après, vous êtes en manque de girafes. Il n'y a pas assez de girafes ou de buffles par rapport au nombre de lions et de léopards, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, on peut toujours ajouter des girafes, par exemple. Mais s'il y a toujours trop de lions, c'est juste offrir de la nourriture aux
Ok.
prédateurs facilement. De trouver la balance entre rajouter des girafes, mais il faut aussi trouver une nouvelle maison pour ces lions qui sont trop nombreux en ce moment.
Et les lions sont des espèces en danger ou pas alors?
Alors oui, c'est ça qui est triste, c'est que c'est en danger. Et dans une réserve comme Makalali, je suis en train de dire qu'il y en a trop, alors que c'est une espèce en danger. C'est là toute la problématique des systèmes clos avec des clôtures autour des réserves. C'est que pour les protéger du braconnage, ils sont entre des clôtures. Mais le fait d'avoir des clôtures fait qu'on a un nombre maximum qu'on peut atteindre. Et au lieu de tout simplement pouvoir relâcher des animaux dans la nature, en fait, c'est pas possible parce qu'on les offre directement à des braconniers, on s'en sert malheureusement.
C'est hyper complexe en fait comme problématique. Et ça, c'est le cas pour Makalali,
Ouais.
mais j'imagine qu'il y a plein d'autres réserves privées. Donc Makalali, c'est une réserve privée en Afrique du Sud. Comment ça se répartit en fait les réserves publiques et privées en Afrique du Sud? Comment l'État gère la conservation de la faune sauvage? Est-ce que tu peux nous faire un petit point comme ça global sur le pays?
Alors, la plupart des réserves, elles sont privées et elles sont pas aidées par le gouvernement. Donc, c'est là où le tourisme, en fait, est aussi très avantageux pour la conservation. Alors, évidemment, encore une fois, c'est un équilibre parce que trop de tourisme au même endroit, c'est malsain et c'est l'inverse d'aider ces animaux et cet environnement. Mais le tourisme ramènent de l'argent dans ces réserves qui permettent de travailler sur cette conservation et leur protection. Et aussi la présence humaine aide à éloigner le braconnage, parce que les braconniers ne viennent pas là où il y a trop de présence humaine, trop d'activité.
Oui, intéressant. C'est intéressant. Et il y a aussi des parcs nationaux comme le parc national Kruger, un des plus connus du pays, qui n'est pas privé, j'imagine celui-ci. Et il n'a pas de clôture,
Donc
je
celui-là,
crois,
non,
non plus.
il est pas privé parce que c'est un parc national. Mais par contre, s'il y a des clôtures, alors le parc Kruger est vraiment immense et s'étend jusqu'au Mozambique. Mais il y a des clôtures. Il y a des clôtures autour et il y a des réserves autour des frontières du Kruger qui sont ouvertes sur le Kruger. Donc les animaux peuvent voyager entre le parc Kruger et ses réserves, de ses réserves au parc Kruger. Et en fait, l'ensemble de tout ça s'appelle le Great Kruger Park. Et donc,
Ok. Oui, c'est pour ça que je pensais qu'il n'y avait
ça,
pas de
c'est un
clôture, mais en
avantage
fait,
parce
si.
que. Ouais, si,
Il
il y
n'est
en a.
pas autour du parc
Mais
forcément.
c'est immense. C'est tellement grand. Je pourrais pas te dire à combien d'hectares, mais c'est très, très grand.
Et quelles espèces sont les plus en danger? Du coup, on va parler pour l'Afrique du Sud. Je pense que c'est là où tu es le plus experte.
Ici, on se concentre énormément sur les rhinocéros, donc rhinocéros blanc et rhinocéros noir, parce que c'est la cible première en ce moment, en tout cas, du braconnage. Il y avait une époque où les éléphants aussi étaient beaucoup braconnés pour leur défense, mais c'est plus trop le cas. Visiblement, c'est plus si désiré sur le marché noir ou je sais pas où. Mais par contre, maintenant, la corne de rhinocéros est hyper recherchée et les braconniers n'hésitent pas du tout à tuer tous les rhinocéros qu'ils peuvent trouver pour prendre une corne, quoi. Donc, on va vraiment se concentrer sur eux. Et ils sont extrêmement en danger aussi, et pas seulement en Afrique du Sud, hein, même les autres rhinocéros du monde entier, parce qu'il y a d'autres sous-espèces. Les populations sont vraiment très basses.
Comment on protège le rhinocéros et on empêche le braconnage ?
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde un œil sur chaque rhinocéros. Donc, on les connaît tous individuellement. Pour les rhinocéros ici à Makaalali, on va les suivre au maximum. Donc, notre but, c'est de les trouver et de les voir le plus souvent possible. Donc, quand on part en activité, en voiture ou à pied, l'un de nos objectifs, c'est de trouver des rhinocéros. Et chacun de nos rhinocéros dans la réserve a comme une carte d'identité où on le reconnaît grâce à des détails de son visage ou de son corps. Et ça a un nom. Le prénom, c'est surtout pour nous aider à les reconnaître et à parler d'eux facilement. C'est plus facile que d'utiliser des chiffres. Mais donc, ils ont un prénom, on sait exactement qui ils sont, leur âge, leur sexe, d'où ils viennent, quelles sont leurs personnalités, parce que ça change aussi d'un individu à un autre. Et donc, on va les suivre le plus souvent possible, prendre des datas à chaque fois qu'on en voit un. Et ces datas nous permettent de voir à quelle fréquence on voit tel ou tel individu. Et ça nous permet de savoir aussi très rapidement quand il y en a un qui manque à l'appel. Donc, s'il y en a l'un d'entre eux qui n'a pas été vu, par exemple, depuis, je dis n'importe quoi, depuis 3 semaines, ça va devenir l'une de nos priorités. Donc, cet individu qui est manquant, on connaît son territoire, on connaît son comportement et on va directement rechercher cet endroit-là pour le trouver.
Et là, actuellement, vous avez combien de rhinocéros dans la réserve ?
Je ne sais pas si je peux dire ça.
Ah oui, c'est
parce que justement, c'est tellement protégé
c'est
que...
C'est protégé. Non, bah non, on ne le dit pas. Alors, il y a des rhinocéros noirs et blancs. Comment on fait leur différence ?
J'ai oublié un truc hyper important. Je n'ai pas parlé du fait qu'on coupe les cornes des rhinocéros blancs pour les protéger. Tous nos rhinocéros blancs dans la réserve, on va les décorner, on va retirer la corne. Parce que s'il n'y a pas de corne, tout de suite, ça devient une cible moins intéressante. S'il y a toujours un petit bout de corne sous la chair dans le nez du rhinocéros, donc il y a toujours un risque. Mais c'est vraiment amoindri quand la corne est coupée et on préfère le faire nous-mêmes pour que ce soit fait dans de bonnes conditions et que l'animal ne souffre pas, on l'endort, etc. On coupe proprement. Alors que quand c'est fait par des braconniers, c'est fait... c'est horrible, quoi. C'est le travail de boucher. Et donc ça, c'est un des moyens de les protéger, c'est de retirer la corne. Par contre, on retire la corne de tous nos individus rhinocéros blancs dans la réserve pour pas créer de déséquilibre entre tel ou tel individu, parce que s'il y en a certains qui ont leur corne et d'autres non, ça peut créer des histoires entre eux. Après, leur comportement, il est aussi observé de très près depuis qu'on fait ça. Et maintenant, ça fait plusieurs années que la réserve fait ça. Et il n'y a aucun changement dans leur comportement. Donc, c'est un succès pour l'instant. Quasiment toutes les autres réserves ici en Afrique du Sud font la même chose.
Il n'y a pas de différence de comportement avec une population avec corne et une population sans corne, c'est ça que tu dis ?
C'est ça, oui. Il n'y a pas de changement dans leur comportement. On ne voit pas de mal-être, on ne voit pas de manque, comme si leur corne leur manquait. Quelque chose qu'ils ne peuvent plus faire parce qu'ils n'ont plus de corne. Il n'y a rien de tout ça. En fait, la corne, elle est principalement utilisée pour la défense et leur sécurité quand ils se battent avec d'autres rhinocéros. Si aucun de ces rhinocéros blancs n'a sa corne, il n'y en a aucun qui est désavantagé dans leur combat de territoire ou quoi que ce soit. Et alors que si tu en laisses un avec une corne et l'autre sans, c'est là où l'autre peut blesser plus facilement celui sans corne. Mais à part ça, il n'y a pas de changement qui a été observé. Et surtout que le fait de ne pas avoir de corne ne les empêche pas d'avoir des interactions entre eux, en fait. Donc, il n'y a pas eu de changement dans le comportement.
Et pourquoi on ne prend pas les cornes des rhinos noirs ?
Et on ne coupe pas les cornes des rhinos noirs parce qu'ils sont complètement différents. Donc physiquement, ils ont une mâchoire qui est différente, une structure dentaire qui est différente. Le port de la tête est plus haut, la tête est un peu plus petite. La taille globale du rhinocéros noir, elle est un peu plus petite, même si ça reste un très gros animal. Et à cause de tout ça, la colonne vertébrale aussi est un peu différente. Et à cause de cette mâchoire qui est faite différemment, ils vont pas vers la même source de nourriture, donc ils vont pas manger la même chose. Le rhinocéros blanc, il va manger que de l'herbe. Le rhinocéros noir, il va aller vers tout ce qui est branches, feuilles, les buissons, etc. Et à cause de ça, ils n'ont pas le même territoire, en fait. Ils ne vont pas ch rechercher la même chose. Et ils ne sont pas en compétition non plus, du coup. Donc, pas la même nourriture et pas le même comportement mental non plus. Complètement différent. Le rhinocéros blanc, il est beaucoup plus tranquille comme animal, même si ça reste sauvage. Mais le rhinocéros noir, c'est beaucoup plus. C'est imprévisible, complètement imprévisible. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un individu à l'autre, ça peut complètement changer. On peut avoir un rhinocéros noir nerveux et agressif, par exemple, ce qu'on ne retrouve pas chez les rhinocéros blancs, où ils sont tous à peu près, ils réagissent tous à peu près de la même façon, ils sont tous à peu près détendus comme animal. Ils aiment les espaces ouverts. Donc forcément, les rhinocéros blancs, ça devient une cible beaucoup plus facile pour le braconnage, parce qu'ils aiment les espaces ouverts, ils sont faciles à approcher, faciles entre guillemets, à approcher. Comparé à un rhinocéros noir qui va aimer être dans des buissons, dans une végétation qui est dense et qui est complètement imprévisible.
Et du coup, ils se font moins braconner ou
Du,
c'est tout
ouais,
aussi
du coup,
recherché?
ils sont moins braconnés parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à. C'est beaucoup plus difficile d'approcher et de trouver un rhinocéros noir qu'un rhinocéros blanc.
Quelles vont être les autres espèces qui vont être recherchées aussi par les braconniers?
Donc l'ivoire, c'est quand même toujours recherché, même si ça l'est beaucoup moins. Il y a aussi des choses comme les dents de lion qui vont être très désirées. Et il y a aussi quelque chose de très étrange, c'est les yeux de vautour qui sont recherchés. Et ça, c'est très malheureux parce que pour obtenir un œil de vautour, en général, les braconniers vont mettre du poison dans une carcasse. Parce que les vautours vont venir manger cette carcasse, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que des vautours qui mangent les carcasses d'animaux. Il y a aussi des hyènes, des chacals, des autres prédateurs, même des lions, des léopards. Donc le problème, c'est que le poison est diffusé sur plein d'autres espèces alors qu'ils veulent seulement un œil de vautour, quoi. Donc oui, il y a quand même pas mal de choses.
Et il y en a qui passent dans votre réserve ou pas, des braconniers qui arrivent à s'infiltrer?
Alors oui, il y a des braconniers qui arrivent à s'infiltrer et passent simplement entre les barrières, malgré que ce soit difficile d'accès à cause du terrain ou que les clôtures soient électrifiées. Le dernier, il n'y a pas eu de braconnage sur un rhinocéros depuis longtemps. Le dernier, c'était en 2017, il me semble. Et par contre, il y a du braconnage de viande, ce qu'on appelle. Donc là, c'est des braconniers qui viennent pour chasser un impala et revendre la viande en ville, par exemple.
Ouais, ok. Est-ce que après tu te spécialises sur une espèce comme le rhinocéros ou alors quand on est ranger, on doit apprendre autant sur chaque espèce du biotope, chaque espèce et chaque là je parle de la faune, mais il y a aussi la flore dont vous êtes très très spécialiste aussi, très spécialisé. J'étais assez étonnée d'ailleurs en rentrant dans cette mission, je me suis dit waouh, je pensais que les rangers c'était vraiment les spécialistes des animaux sauvages qui connaissaient tout sur le lion, le tigre, enfin il n'y a pas de tigre en Afrique du Sud, de l'hippopotame, des rhinos, des zèbres, etc., des impalas. Mais au final, il y avait énormément aussi d'informations sur les arbres, les buissons, les herbes, les plantes, les oiseaux. Enfin,
Ouais.
c'est incroyable en fait tout votre savoir. Donc comment ça se passe? Est-ce que tout le monde sait tout sur tout? Et à chaque step de Ranger, en fait, tu as un peu de tout, comme tu disais, les différents chapitres? Ou alors après, tu peux un peu choisir ta voie et te spécialiser?
Ouais, c'est ça. En fait, il y a une base à avoir que tout le monde doit avoir. Et c'est déjà assez dense comme connaissance. Et donc ça, oui, c'est sur les plantes, les oiseaux et les chants des oiseaux, les chants des grenouilles, tous les mammifères, et avoir des connaissances sur chaque espèce, etc. Et après, tu peux te spécialiser dans certaines choses, mais en ce qui concerne les animaux, les plantes, les oiseaux, c'est plus personnel. En général, tel ou tel ranger va avoir un intérêt plus fort pour les oiseaux, par exemple. Et donc, cette personne va être vraiment très douée à reconnaître, je sais pas, 500 espèces différentes d'oiseaux. Il va les reconnaître comme ça. Puis, il va connaître leur chant aussi. Donc, puis, d'autres gens vont se spécialiser sur l'astronomie parce qu'ils aiment ça. Pas forcément des examens que tu fais. Après, tu peux t'orienter vers tout ce qui est orientation à pied, être ranger à pied. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et ça, t'as besoin de qualifications et d'examens. Mais en ce qui concerne les différents sujets de la nature, il n'y a pas des examens pour chaque sujet. Il y a ici, il me semble qu'il y a un bird spécialiste qui existe. Donc ça, c'est vraiment pour les gens fans des oiseaux. Il me semble qu'il y a un truc sur l'astronomie et il y a un truc en ce moment qui est en train de se créer, il me semble, sur les fleurs sauvages. Mais voilà, c'est aussi personnel, quoi. C'est un peu chacun se dirige vers ce qu'ils aiment le plus.
Et toi, tu as passé combien de niveaux, si je puis dire, pour le moment?
Donc moi, pour l'instant, j'ai passé donc le niveau 1 pour être ranger. Et après ça, j'ai passé des examens de Tracks and Signs. Donc ça, c'est ce qui est à propos des traces que tu peux lire sur le terrain et comment traquer des animaux, donc les suivre dans la nature. Ça, en Tracks and Signs, j'ai niveau 3. Donc après, j'ai été backup à pied. Donc backup à pied, ça veut dire que quand tu pars à pied dans la savane avec des clients, tu as en général deux fusils. Donc, il y a un premier guide qui est le premier fusil de la ligne, donc c'est le lead trail. Et tu as un deuxième fusil qui est le backup trail. Donc, après ça, j'ai été backup pendant un moment. Et récemment, je suis devenue lead trail, donc premier fusil.
Ouais, c'est impressionnant. Moi, j'avais fait, du coup, quand on est éco-volontaire, on fait des safaris dans la voiture, on est protégé. Mais après, il y avait quelques walks et on était à pied avec deux rangers, un devant, un derrière. Et c'est toujours impressionnant de voir les armes et d'être à hauteur, enfin, de se sentir tout petit par rapport aux animaux quand on les entend, quand on les voit. Moi, ça m'impressionnait beaucoup et je me dis que toi, c'est ton métier, c'est toi qui dois agir s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose à faire. Donc c'est waouh! Et tu le fais, tu l'as déjà fait ou
Ouais.
pas? Tu t'en es déjà servi?
Non, 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 je m'en suis pas servie et j'en ai pas l'intention. Il y a plein de solutions possibles pour te sortir de situations dangereuses. Et le fusil, c'est un peu comme une loi en fait. On doit l'avoir, mais tu veux pas t'en servir. C'est comme ta ceinture de sécurité dans ta voiture, ça te saoule de la mettre, mais c'est obligatoire. Et aussi, tu vas pas foncer dans un mur avec ta voiture pour tester que ta ceinture elle marche bien. Tu
Ouais,
vois?
je comprends bien, ouais.
Donc on l'a parce que ça fait partie de la loi, de la politique, du règlement, peu importe, c'est comme ça. Mais on fera toujours tout ce qui est possible avant de l'utiliser. Il y a tellement de choses possibles. Les animaux communiquent beaucoup, hein. Quand tu es à pied, il y a tout ce qui est langage corporel que tu apprends, en fait, que tu apprends à comprendre et à lire quand tu vis ici. Et en fait, plein de choses deviennent plus faciles à anticiper, à comprendre. Et donc, toi, tu pars et tu réagis en fonction. Il n'y a pas besoin du fusil, en fait. C'est vraiment en cas extrême danger parce que tu as des clients avec toi aussi. Mais non, on n'utilise pas.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le langage corporel des animaux, l'éthologie en fait, c'est le comportement, savoir comment ils communiquent. Et j'imagine que bah, il y a
Ouais,
beaucoup de
exactement.
choses différentes parce que il y a beaucoup d'espèces différentes, que ce soit proies, prédateurs, oiseaux. reptiles,
Ouais.
etc., ça doit, c'est quand même beaucoup de connaissances et d'expériences avant de comprendre comment tout fonctionne.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est principalement, c'est un peu de connaissances et beaucoup d'expérience, je pense. Parce que aussi, tu apprends tous les jours ici. Tu te trouveras toujours face à des situations qui sont différentes chaque jour. Et les animaux lisent pas les livres. C'est ce qu'on dit souvent, les animaux lisent pas les livres. Alors, ce qu'ils te disent dans le livre que, je sais pas, un buffle qui te charge ne s'arrêtera jamais. Le buffle en question n'a pas lu ce texte. Donc, t'es jamais protégé d'une exception, tu vois. Et les exceptions dans la nature, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ah, c'est marrant ce que tu dis. Et toi, l'espèce que tu préfères étudier, ce serait laquelle?
Moi, j'adore les rhinocéros et les éléphants. Je pense que c'est vraiment...
Les
Ouais, c'est ce que
pachydermes,
je
quoi,
préfère.
les gros.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous donner une journée type? Je pense pas qu'elle existe, mais une semaine type ou un mois type de ta vie de ranger?
Alors, en général, on travaille ici. Je travaille avec des volontaires qui viennent faire une expérience de volontariat, qui veulent se sentir utiles pour la nature, etc. Donc, je vais travailler avec ces volontaires pendant la majorité de mon temps. Et donc, en général, on part le matin en activité, soit on part en voiture, soit on part à pied. En ce moment, c'est l'été ici. On est en décembre. Donc, ouais, donc c'est l'été et on part le matin à 5 heures. On part pendant 3, 4, 5 heures, ça peut être 6 heures, ça dépend de la mission qu'on a. Et l'après-midi, pareil, il y a une autre activité, soit en voiture, soit à pied, environ 3-4 heures. Et en fait, on fait des plannings par semaine où sur ce planning, on a des priorités pour la semaine. Donc, par exemple, priorité d'une semaine, ça peut être trouver les licaons, trouver tel rhinocéros blanc qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc, on commence à s'inquiéter, il faut la trouver. Et observer les lions au maximum pendant la semaine parce qu'ils commençaient à avoir des changements de comportement entre les différents accouplements dans deux prides différentes. Tu vois, je te donnais trois exemples. Donc, si ces exemples-là sont nos priorités de la semaine, nos activités vont être orientées autour de ces animaux, de ces individus. Donc, notre but, ça va être de les trouver. Et en fait, pendant que tu fais ces activités, pendant que tu fais ces recherches, que tu pars un peu en exploration pour trouver ces rhinos ou ces éléphants, peu importe, tu vas aussi voir tellement d'autres choses sur le chemin, sur le terrain que tu explores pendant 5-6 heures, que tu as aussi une source d'information, tu reviens avec une source d'information qui est assez importante en fait quand tu reviens après un drive ou une walk. Et tout ça, bah, c'est notre matière pour comprendre ce qui se passe dans la réserve et maintenir l'équilibre.
Ouais, et tu prends de la data, c'est ce qu'on faisait nous en tant que bénévole. On avait les tablettes et du coup, lors de la mission, lors du trajet pour aller sur un espace particulier dans la réserve, bah, si on croise tant de zèbres, tant de girafes, tant d'hippos, eh ben, on les note, on note leur nombre, on note si c'est une femelle, un mâle. Si on arrive à identifier, comme tu dis, qu'il y en a qui sont identifiés en tant qu'individus, s'ils sont boiteux, s'ils sont malades, s'ils sont
Ouais, c'est ça.
debout. En fait, il y a plein de petites choses à observer. Franchement, c'était trop intéressant. Ça permet vraiment
Ouais.
de travailler sa capacité d'observation, je trouve. On ralentit, on n'est
Ouais.
plus dans la vie en ville ou en France ou quoi. Là, on est au rythme vraiment de la nature, on ralentit. Et comme tu dis, quand tu le dis, là, ça paraît dingue. Quand tu dis on part pour des missions de 5-6 heures à 5 heures du mat. Mais je n'avais pas réalisé que c'était tant. Mais ouais, en fait, on part tellement tôt. Tu pars, le temps, il n'a
Ouais.
pas la même valeur là-bas. Il n'a pas la même sensation. Et puis, tout est plus lent. Il y a beaucoup d'observations. C'est comme moi, quand je suis rentrée, j'avais l'impression, je suis sortie de la réserve. Quand je suis sortie de la réserve, j'avais l'impression d'être sortie d'une longue méditation, tu vois, de 2 semaines. D'un truc un peu
Ah
dans un autre monde,
ouais.
ouais. Tout est plus calme, tout est
Ouais.
plus. C'est fou, c'est d'autres vibes.
Bah c'est ça, c'est le rythme de la vie est beaucoup plus lent, je pense. Et en même temps, t'aiguises tes sens beaucoup plus.
Ouais, c'est
Parce
ça.
qu'en ville, moi, l'impression que j'ai, c'est que en ville, tu vas te protéger un peu de tout ce qui est pollution visuelle, auditive ou autre. Alors que ici, c'est l'inverse, il faut voir les moindres détails, il faut entendre ou même sentir, on utilise notre odorat beaucoup en fait ici parce que tu peux sentir la présence de buffles, la présence d'un éléphant, même le léopard, je ne sais pas si tu as eu l'expérience, quand il relâche ses phéromones-là,
Léopard,
ça
non,
sent une
mais
odeur
c'est vrai que les
particulière.
lions, tu les sens fort, hein. C'était incroyable, ouais.
Ouais. Et donc tout ça, c'est des choses qui t'aident vachement dans ta recherche quotidienne quand tu pars en mission. Et ouais, tu as un œil beaucoup plus aiguisé, des oreilles beaucoup plus aiguisées. Donc ouais, c'est vachement intéressant.
Ouais, trop, trop intéressant. Après, quand tu rentres, c'est un peu dur, je trouve. J'avais une petite phase. Pour le retour à la réalité région parisienne où tu te sens un peu agressé, du coup. Comme tu
Ouais.
disais, la pollution sonore, auditive, la rapidité du monde. Enfin, c'est. Faut faire un petit. J'avais pris quelques jours après à Johannesburg pour faire un petit sas en fait de décompression, mais même en faisant ça, t'as quand même le retour qui est dur. Mais j'imagine même pas si tu fais la réserve Paris. Je pense que c'est compliqué. Et quels sont pour toi les points positifs et les points négatifs de ton métier? Qu'est-ce que tu aimes le plus et que tu aimes le moins en fait?
Alors, ce que j'aime le plus, on va commencer par ça, c'est le plus facile. Moi, j'ai toujours voulu travailler avec une proximité avec la nature, les animaux et tout. Donc là, le fait de voir des animaux tous les jours, des animaux comme ça, d'Afrique du Sud, enfin c'est, je m'en lasse pas quoi. Donc ça c'est vraiment mon rêve réalisé chaque jour. Et le fait de me sentir utile et d'être proactive pour leur protection et leur conservation, ça c'est vraiment le meilleur, je pense. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est peut-être plutôt le point négatif, c'est peut-être l'aspect humain où je suis très très souvent entourée de gens. Et ça, parfois, ça me bouffe un peu mon énergie parce que je suis plutôt une introvertie qu'une extravertie. Donc ça serait plutôt mon point négatif. Mais à la fois, quand je vois parfois les réactions que ça crée chez les gens de leur montrer d'arrêter la voiture au milieu d'une horde d'éléphants et de rester là pendant 1 heure et ils ont les éléphants tout autour d'eux, même pas à 1 mètre, s'ils tendaient le bras, ils pourraient les toucher. Et tout ça, c'est sauvage, c'est complètement sauvage. Et il y a des gens qui en pleurent, il y a des gens qui sont vraiment touchés. Et tu vois que ça change, parfois ça change des vies ou ça marque à vie. La plupart des gens qui viennent ici, ils se souviendront de leur expérience pour toute leur vie, tu vois. Et ça, j'avoue, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est le but aussi, tu vois, de créer quelque chose dans le cerveau de quelqu'un et de lui faire réaliser que bah, c'est un peu éphémère tout ça et que bah, y a besoin de gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent, qui donnent leur énergie pour protéger cet environnement, quoi.
Non, c'est clair que c'est très émouvant, on le sait que c'est très fragile, c'est un coin de la nature qui, voilà, qui est très bancal en ce moment, et on le sait, mais d'y aller, de le voir, de le ressentir, c'est incroyable en fait. C'est vrai, comme tu dis,
Ouais, c'est pas pareil.
ça change vraiment la perspective, le point de vue qu'on a sur la nature. Ça devient vraiment
Ouais.
plus palpable en fait. Et bah, ça fait une
Ouais, c'est ça.
parfaite
Et c'est
transition.
normal parce que je pense quand tu peux pas savoir quelque chose que t'as jamais vu, tu vois.
Oui, si tu le
C'est
vis
comme
pas, tu le vis pas, oui, tu peux pas
si
le
un
conscientiser
enfant à
100%.
qui tu lui parles jamais de quelque chose, tu lui parles jamais de la savane, un enfant. Il peut pas imaginer ce que c'est de la savane. Tant que t'as pas un peu de contact avec la savane, par exemple, tu peux pas imaginer à quoi ça ressemble. Tu peux pas imaginer ce que tu ressens quand t'es dedans. Tu peux pas imaginer tout ce qui est lié à cet environnement. Donc en fait, tant que t'expérimentes pas cette aventure-là, c'est très dur, je pense, de réaliser à quel point c'est important, fragile, etc.
Ouais, c'est ça. On le sait parce qu'on nous le dit, mais après,
Ouais.
on le ressent pas forcément 100%, quoi. On ne conscientise pas vraiment. Du coup, ça fait une parfaite transition pour tu nous donnes des conseils pour bien choisir son safari, si on veut faire juste un safari et, ou alors une mission d'éco-volontariat, pour pas rentrer dans un truc un peu, pas une arnaque, mais un truc, tu vois, un clic touriste qui prend l'argent mais qui va pas au bon
Ouais.
endroit pour les bonnes réserves, pour les bonnes missions, ou tu vois, les endroits où on s'approche trop des animaux, où on les caresse, enfin voilà, c'est quand t'es en France, que t'es à distance, c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choix finalement, même en éco-volontariat, hein, moi je trouvais qu'il y avait du choix. Donc quels sont tes
Ouais.
conseils pour bien choisir ces missions?
Je pense que pour moi, le plus important, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est quand tu cherches à faire du volontariat avec des animaux, faut pas que ce soit un projet où tu tiens les animaux dans tes bras, quoi. Parce que ça, il n'y a rien de pire, je pense, pour moi. Et si tu vois des photos sur Internet où tu as des gens qui ont des lionceaux dans les bras, ou... pour moi, c'est pas sain, quoi. C'est pas normal, et sûrement derrière ce système, enfin derrière ça, il y a sûrement un système qui cache qu'en fait ces lions sont, je te donne un exemple, mais sont élevés et ils se reproduisent là-dedans dans ces enclos juste avec le but d'avoir des lionceaux régulièrement, et ça ramène des touristes régulièrement parce qu'il y a plein de gens qui adoraient avoir un lionceau dans les bras, tu vois. Donc ça, il faut faire super attention à ça. Après, ça veut pas dire que tous les endroits il y a des endroits où bah, c'est des projets de réinsertion, et donc forcément ils vont avoir des petits de je sais pas quelle espèce abandonnés ou trouvés, je sais pas, sur le bord d'une route dans un village. Du coup, ils vont l'intégrer dans un enclos et peut-être le garder pendant quelques mois et essayer de le relâcher. Mais par contre, il faut être sûr que le projet en question, il relâche justement ces animaux, et que c'est pas une excuse. Oui, on peut pas le réintégrer à l'état sauvage parce que maintenant il est trop habitué à l'être humain. Bah oui, mais dans ce cas, pourquoi il était nourri à la main? Pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça, il faut faire super attention. Parce que c'est des animaux sauvages, ils sont pas censés être si proches de l'homme comme ça. Alors les animaux sauvages et l'humain cohabitent, et c'est normal, ils ont vécu ensemble depuis toujours, en préhistoire et tout, enfin. Les sapiens, peu importe lequel, il y avait des animaux aussi, ils partageaient tous la même terre. Donc je dis pas que c'est pas fait pour être ensemble, mais il y a un respect qui doit être là, ou des limites à pas franchir, pour moi. Et même si, et je sais que c'est dur, parce que quand tu adores les animaux, je sais que c'est dur de dire, bon bah non, je vais pas mettre ma main dans la fourrure de ce guépard ou quoi. C'est dur parce que je comprends, t'es attiré, t'es curieux, et puis, mais en fait, pour leur respect, et si c'est vraiment un amour honnête, je pense, et réel pour les animaux, t'es capable de te retenir de ça, et de comprendre que le plus important, c'est que ce soit le plus sauvage possible, quoi. Le moins d'impact humain, c'est mieux. Et voilà, moi, je m'égare un peu là, mais
Non, mais en fait, quand on nous explique pourquoi, c'est très clair. Après, faut juste se retenir, comme tu dis. Mais si le but, voilà, c'est qu'il reste
ouais, c'est
sauvage,
ça.
qu'il reste un petit peu craintif de l'homme, bah, très bien, puisque
Ouais.
l'homme, ça va être le plus gros prédateur au final. Donc, il faut que cette crainte.
Ouais.
Mais cette cohabitation sans cette grosse peur, faut pas que ce soit une peur palpable, mais faut cette crainte, quand on arrive à proximité, du moins.
Ouais.
Pour finir, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? T'as un projet aussi pro, personnel en plus, de ton travail à la réserve?
Alors oui, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai créé ma petite compagnie qui s'appelle The Ubonani Expedition, et c'est orienté sur le trail, donc c'est être dans la savane mais à pied. Et ce que je fais principalement, c'est que j'emmène des gens avec moi pendant 4 jours à pied dans la savane, et donc c'est 4 jours 3 nuits en général, mais bon, c'est adaptable. On fait un peu en fonction des demandes. Mais voilà, on part à l'aventure, on dort à la belle étoile le soir, On entend les lions rugir quand le soleil se couche. On voit plein d'animaux à pied. On découvre plein de choses dans la nature parce qu'on en apprend tous les jours. Et voilà, j'ai créé ça parce que c'est ce que j'aime le plus, être à pied et être complètement immergé dans cet environnement. Et tu te sens petit et à la fois tu vois l'importance de tout ça sous un autre angle. Et ça rend humble, je pense. Et c'est important de se rappeler tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui marque les gens, je trouve. Après 4 jours en autonomie dans la savane, on boit de l'eau de la rivière et tu dors sous les étoiles et t'entends les animaux autour de toi, ça marque, ouais. T'en reviens pas complètement changé. Je dis pas que c'est, ouais, je m'égare encore.
Non, non, pas du tout. C'est
Je
trop
pense.
beau comment tu en parles. Et les gens, ils n'ont pas peur de dormir. Moi, c'est ça ma première crainte qui me vient quand tu m'as parlé de ton projet. C'est dormir dans le bush, quoi, avec les léopards et les lions et les hyènes qui peuvent passer à côté. Est-ce que c'est pas dangereux?
Alors si, c'est dangereux, mais c'est là où aussi on montre à ces gens qui veulent venir faire cette expérience avec moi. Je vais leur montrer que c'est une histoire de cohabitation et de respect et que l'animal, il vient pas t'attaquer comme ça sans raison. Un animal qui attaque, c'est un animal qui a été agressé ou qui est... où l'humain est peut-être entré dans sa zone de confort. Donc si la distance est respectée et que, y a du respect dans tout ça, chacun... On vit sur la même planète depuis toujours, en fait. Donc c'est pas chacun son monde et chacun est séparé. On appartient tous à la nature et à la savane, quelque part, je pense. Donc c'est ça aussi qui est super poignant et intéressant, c'est de... Peut-être de faire réaliser des gens peut-être qui vivent à Paris ou et je dis pas ça avec jugement parce que je vivais à Paris donc qu'en fait tu peux te connecter si fort à la nature que en fait c'est pas un problème qu'il y ait des lions autour, tu vas les entendre, eux ils t'entendent aussi, ils te sentent et tant qu'il n'y a pas de limite franchie entre les deux espèces tout se passe bien. Après il y a toujours des situations un peu intense parce que comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des exceptions dans la nature. Mais encore une fois, tant que tu arrives à lire les signes, à anticiper, à éviter des situations trop dangereuses inutilement, à lire des langages corporels d'éléphants ou de rhinocéros, en fait, tu peux éviter tous les problèmes. Et t'as un petit pourcentage peut-être de risques que tu peux pas prévoir ou anticiper. Mais ça, c'est un peu partout. Hein. C'est comme quand tu traverses la rue le soir à 1 h du mat dans je sais pas quelle ville en France, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment une connexion forte à la nature. Si tu veux être complètement immergé et te rendre compte qu'en fait, t'es capable d'être super autonome, à te laver dans la rivière, boire l'eau de la rivière. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin de beaucoup plus que ça.
Oh, c'est trop beau. C'est trop beau tout ce que tu dis.
Je me demandais si tu
Ouais,
m'entendais.
j'étais à fond. Franchement, j'étais à fond dans ce que tu disais. Et ben merci, merci pour ça. Moi, ça me donne trop envie de faire, si un jour je repars en Afrique du Sud, de faire ça, même si ça me fait un petit peu peur, mais de dormir mais à la belle étoile avec
En
les
fait, c'est
lions.
bien d'avoir peur, hein. C'est bien d'avoir peur. Je dis tout le temps aux gens qui viennent avec moi, la peur va te garder en vie, en fait. Mais le plus dangereux, c'est les gens qui ont peur de rien et qui ont pas conscience du danger. Là, c'est dangereux. Mais en fait, si tu as peur, mais tu es sûr que tout va bien. Parce que du coup, tu vas être alerte à ce qui se passe autour de toi, ce que tu entends, ce que tu vois avec la lampe torche la nuit. Même si c'est un petit rongeur, si tu as peur, en fait, tu vas penser que c'est plus gros que ça. Et du coup, ça te garde en vie, en fait. C'est bien d'être d'avoir peur.
Oui, bah là c'est le bon mécanisme, ouais, c'est la bonne peur. Est-ce que y a un message
Ouais.
que tu voudrais faire passer pour finir et clôturer ce podcast? Même si c'était déjà très joli ce que tu viens de dire, le fait d'être en harmonie avec la nature.
Mais je pense qu'on peut tous d'une façon ou d'une autre aider un peu l'environnement, même si on peut pas forcément tous voyager, on peut pas forcément tous changer de vie. Mais il y a des moyens pour se rendre utile et je pense qu'il faut, quand on a une idée en tête, il faut la suivre et faire en sorte que ce soit faisable. Je dis pas que tout est faisable parce que ça demande du travail ou de la patience ou des moyens matériels ou peu importe. Mais je pense que si au fond il y a vraiment un truc qui te drive vers quelque chose et que tu dis c'est ça que je veux faire et quand je fais ça, je me sens super épanouie. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas manquer ce genre d'opportunité. Et c'est moi, c'est l'une des choses dont je suis la plus contente aujourd'hui, c'est que j'ai eu une opportunité qui au début paraissait un peu folle. Et en fait, j'ai sauté dedans et aujourd'hui, je suis tellement contente et je suis fière de ce que je fais. Et même s'il y a des moments difficiles, vu qu'il y a un sens qui est hyper fort à ce que je fais, bah, je regrette rien, quoi. Ça vaut les sacrifices.
Trop beau. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Claire et pour cet entretien et j'espère que beaucoup de gens vont écouter cet épisode parce que je trouvais ça hyper intéressant tout ce que tu fais et quel courage et quelle passion. Merci beaucoup.
Merci, merci à toi.
C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère qu'il vous aura fait voyager et que vous en aurez appris plus sur les enjeux de la protection et de la conservation de la faune sauvage africaine. Si cet épisode vous a plu, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, c'est ce qui donne de la force au projet Mordant. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux en nous taguant @clairedbv et @mathilde-ostéo. À bientôt pour le prochain épisode de Mordant.